Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette émission estivale sur 48FM et sur Radio Margeride. Bonjour Nathalie.
Bonjour Guillaume.
Bonjour Ludovic.
Bonjour.
Et bonjour à tous nos invités. Merci de nous accueillir à Javol. Bonjour.
Bonjour.
Alors on va parler aujourd'hui des gabalades. Alors on va tout de suite demander à l'organisatrice en chef de quoi il s'agit et voilà qu'est-ce qui va se passer pendant ces deux jours ici à Javol.
Ici à Javol, on faisait de l'archéologie jusqu'en 2010 sur le terrain en fouillant et maintenant on continue à faire de l'archéologie en recherche. Grâce à ce qu'on a fouillé depuis le début du 19e siècle. Et l'idée de ce festival, c'était de mettre à l'honneur les savoir-faire, ceux des archéologues bien sûr, mais aussi ceux des artisans, qui permettent d'animer, au sens exact du terme, les objets qu'on trouve en fouille, qui ne sont que les restes d'une très longue chaîne opératoire, depuis la matière première jusqu'aux poubelles, que nous, les archéologues, nous mettons en évidence, puisque ce qu'on trouve, c'est tout ce que les gens ont jeté, cassé ou abandonné dans le passé. Donc l'idée, c'était de passer la main le temps d'un week-end à des artisans qui pouvaient montrer comment le savoir-faire depuis l'Antiquité se transmettait jusqu'à nos jours et permettait de comprendre comment on pouvait utiliser ces objets et comment on faisait vivre justement ces objets, dans notre cas, il y a 2000 ans.
Alors, ils sont nombreux. Alors, il y en a deux autour de la table, il y en a quelques-uns derrière nous. Mais ces artisans, ça ne doit pas couvrir les rues quand même, qui utilisent ces techniques d'il y a plusieurs centaines d'années, milliers d'années même, peut-être. Oui, deux millénaires.
Deux millénaires, oui. Ben, en fait, ce sont des gens qui sont professionnels, pour la plupart, ou de gens qui travaillent dans des associations. Et quand ce sont dans des associations, ce sont des gens qui travaillent en collaboration avec des artisans. Donc la base de ce travail, c'est donc le savoir-faire, mais aussi la recherche qui permet de mettre en place, enfin de mettre en évidence la chaîne opératoire de fabrication. Et comme nous, il nous manque la partie du début, nous les archéologues, on retrouve la fin, mais les artisans ont le début, on fait appel à ces gens-là qui ont un savoir-faire. Donc ça peut être amateur dans des associations, amateur vraiment très spécialisé, ou professionnel, et là, par exemple, comme les verriers, ce sont des métiers qui existent toujours. Mais par exemple, parmi la trentaine d'artisans qui viennent depuis 2008, on a un tabletier, c'est un métier qui n'existe presque plus depuis le début du XXe siècle, et on faisait notamment, grâce à ce travail de l'os, des éventails. Et le plastique a remplacé en matière première tous ces petits objets de la vie de tous les jours. Et donc, c'est pas qu'on a perdu le savoir-faire, c'est qu'on a perdu les gens qui utilisaient cette matière première. Donc ils sont très peu, effectivement. Après, la chance qu'on a, c'est que l'archéologie expérimentale, c'est une discipline qui existe depuis une quinzaine, vingtaine d'années en France, mais qui est plus ancienne dans les pays anglo-saxons. Et c'est grâce à ces choses-là, et à l'émulation et aux rencontres, notamment lors de ces festivals, soit qu'on crée des vocations, soit qu'on permet de mettre en place des gens qui ont envie de faire ce travail d'archéologie expérimentale et de contacter à leur tour, dans leur propre réseau professionnel ou d'association, des gens qui vont intégrer ces festivals et ces manifestations.
Ce sont des métiers d'art qu'on va retrouver qui correspondent uniquement aux objets retrouvés sur place, ici à Javol, ou on
l'ouvre un peu plus ? Ce qu'on a décidé de faire en 2008, pour se distinguer du très grand nombre de festivals qui existent déjà, c'est vraiment de s'axer sur les objets qui ont été trouvés à Javol. Et donc après, on choisit une thématique. Cette année, par exemple, c'est l'alimentation. Mais les objets dictent en fait le choix des intervenants. Après, bien sûr, c'est en fonction des affinités et puis des réseaux et des échanges qu'on peut entretenir entre musées et personnes de l'archéologie expérimentale. Mais nous, on a fait le choix à Javol de s'orienter, de s'ancrer uniquement sur les objets, de façon à faire le lien entre le musée à l'intérieur et le festival à l'extérieur, et qui est vraiment un aller-retour entre les deux.
Et du coup, c'est des artisans qui viennent d'un peu partout dans la France.
Oui, donc on a fait une sorte de tour de Gaulle sur le petit dossier de presse. Donc ils viennent presque des quatre coins, puisque parmi nos verriers, il y en a qui viennent du Périgord et d'autres qui viennent de Lorraine. Mais on a également un monsieur qui vient de Caen, le tabletier, justement, il vient de la région de Caen. Donc oui, effectivement, ils viennent des... Comme ce sont des savoir-faire quand même très spécialisés, ce sont des gens qui travaillent sur des sites archéologiques ou dans des points vraiment très, très spéciaux.
Bon, on va peut-être commencer la rencontre avec, avec nos deux spécialistes autour de la table avant de rentrer un peu plus tard sur le programme de ce week-end. Alors, bah, peut-être vous pouvez nous, nous expliquer comment, bah, comment vous travaillez. Est-ce que vous travaillez avec les mêmes méthodes que, qu'il y a de 2000 ans ou est-ce que, enfin, comment on construit son, son travail dans, dans cette logique-là de se dire on travaille dans, dans un mode d'archéologie. Comment on construit ce, ce travail-là, oui. Je ne sais pas si je suis très clair, mais...
Alors, oui, moi, pour ma part, la démarche n'est pas tellement archéologique parce qu'on est un des rares métiers, la taille de pierre, en l'occurrence, à ne quasiment pas avoir changé de technique. C'est même certain. On a juste quelques très légères améliorations. Ce sont nos outils et la façon dont les outils sont faits, l'acier de meilleure qualité, etc. Sinon, le geste, le dessin sont toujours les mêmes. Et on a beaucoup de chance parce qu'on n'a absolument jamais changé. On a toujours eu besoin de tailleurs de pierre. Le métier a commencé simplement à diminuer. On a de moins en moins de personnes parce que maintenant, on fait plus appel aux matériaux modernes, béton moderne, ciment, etc. Parce que tout simplement, après la Première Guerre mondiale, il a fallu reconstruire très très vite. Donc déjà, on a commencé à remplacer la pierre qui est un peu plus lente à mettre en œuvre. Mais sinon, j'ai découvert la démarche archéologique pour des rencontres comme Javol, c'est-à-dire essayer de retrouver plus une méthode pour expliquer aux gens à quel point la construction, le travail est simple en réalité. On a rien de compliqué, on travaille simplement et d'une manière logique.
Non, j'avais juste une question à me dire. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans ce métier de tailleur de pierre.
Alors, non, on n'est pas très nombreuses. On doit être à peu près, aux dernières nouvelles, on doit être 25 à peu près. Mais on a, dans la taille de pierre, il y a une aristocratie, entre guillemets, du métier qui s'appelle un appareilleur. Il y en a 8 dans le monde, donc 8 en France, qui sont capables de tout faire. Du début à la fin, c'est eux qui gèrent les très grands chantiers de restauration, le Louvre, etc. Il y a une femme qui est appareilleur, qui a géré notamment les travaux de restauration du Petit et du Grand Palais à Paris. Donc voilà, on n'est pas très nombreuses, mais on a notre place. Il y a absolument... Je n'ai jamais eu le moindre problème parce que j'étais une femme. On vérifie simplement qu'on sait travailler. Et puis après ça, on est tous différents. On a tous des façons différentes de faire. Donc on trouve toujours sa place sur un chantier.
Alors si on passe au verrier maintenant, si on reprend un peu la même question, comment se situe votre activité d'artisan et ce travail d'archéologie, de recherche archéologique ?
Bien, c'est-à-dire que moi, je suis artisan déjà, et depuis très longtemps, je me suis toujours passionné pour l'histoire du verre. Et au début que j'ai commencé ma carrière, on a beaucoup de difficultés à trouver des livres, des documents pour se documenter, bien sûr. Et donc, au fil des ans, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui s'intéressaient à l'archéologie, donc ça m'a ouvert une porte, et donc je me suis un petit peu glissé là-dedans. Et de fil en aiguille, si vous voulez, le temps a passé et ça m'a permis de rencontrer des gens et trouver des gens qui portaient un intérêt à l'archéologie du verre en particulier. Et donc moi, ça m'a aidé à m'orienter sur la recherche expérimentale du travail du verre. Et donc pour revenir à la façon de travailler d'aujourd'hui par rapport à celle d'il y a, on va dire, 2000 ans, eh bien, le matériau n'a pas beaucoup changé, les outils, quelques outils de base n'ont pas changé. Mais la façon de travailler a beaucoup évolué. Par exemple, en manufacture, où j'ai appris mon métier, vraiment, le métier est tout à fait, séquencé et organisé de telle façon qu'il n'a rien à voir avec cette époque-là. Mais dans le monde, on trouve encore des ateliers qui travaillent exactement comme il y a pratiquement 2000 ans. Donc ça peut servir pour les archéologues ou les ethnologues à retrouver un petit peu ces traditions. Et puis, eh bien, on s'y accrochait, je dis « on », parce que dans ces recherches que j'ai menées, j'ai attiré avec moi des jeunes, comme François, qui est là, et Chloé. Et donc, j'ai adhéré à une association qui s'appelle la FAV, qui veut dire Association française pour l'archéologie du verre. J'étais le premier verrier à participer à cette association, et j'ai arrivé maintenant à drainer, bonhomme à l'an, une dizaine de verriers, de jeunes, à s'intéresser à l'archéologie. Donc j'ai fait un petit peu un travail de débroussaillage, on va dire. Et ces jeunes qui sont dans cette association, donc on se rencontre une fois par an par le biais de cette association, et je me suis aperçu qu'en échangeant nos expériences respectives, nos points de vue, on arrive à avancer beaucoup plus vite que tout seul dans son coin.
François, vous travaillez le verre comme à l'époque ?
Alors, à la base, non. Donc, j'ai appris de façon, on va dire, traditionnelle et moderne. Maintenant, on tente à travailler justement comme à l'époque. On continue un peu le travail d'expérimentation. On va jusqu'à travailler avec des fours à bois. Donc là, c'est l'expérimentation qui poursuit, en fait. Donc, on a travaillé beaucoup sur les gestes. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, donc, quand on travaille, on dit à l'antique, on travaille seul, assis dans le four et pas à plusieurs dans un espace plus grand. Et donc maintenant, on va jusqu'à expérimenter les fours, parce qu'il y a la partie technologique des fours qu'on a un petit peu perdue. Donc là, c'est un gros travail qu'il y a à faire. Donc on est plusieurs à se pencher sur le sujet. Et donc là, on voit qu'on a des difficultés en fait, à interpréter déjà ce qu'on trouve en fouille. La dimension du bois, les qualités de bois utilisées, la façon de conduire un four, c'est quelque chose qui... C'est un métier. Donc c'est un métier qu'il va falloir qu'on réapprenne. Donc on a des sources pas forcément antiques. On a des écrits du 17e, du 18e qui nous permettent quand même d'appréhender un petit peu la question. Et donc là, on arrive vraiment à travailler comme à l'époque, donc comme dans l'Antiquité. On a travaillé récemment avec très peu d'outils, donc on utilise très peu d'outils, au bois, en costume. Et là, on touche vraiment le métier antique du doigt. Là, on aboutit vraiment à l'expérimentation.
Oui, je voulais préciser que, pour argumenter ce que vient de dire François, effectivement, on trouve un peu de littérature hein, sur le verre, mais malheureusement, les gens qui ont écrit les livres à l'époque n'étaient pas verriers. Donc ce sont des gens qui écrivaient ce qu'ils voyaient et qui ne comprenaient pas nécessairement ce qui se passait. Alors ce qui fait que nous aujourd'hui, je prends par exemple l'exemple de l'encyclopédie de Diderot qui est connue de tout le monde et qui est un ouvrage de référence très important, mais en s'apercevant il y a plein d'erreurs parce que la personne qui était dans la verrerie pour prendre les croquis, ben, il ne connaissait rien, donc il crobait un petit peu ce qu'il voyait. Après, il posait des questions aux gens qui travaillaient, qu'est-ce que vous faites là, à quoi ça sert, etc. Donc, souvent dans ces verreries qui étaient parfois travaillaient des gens qui n'étaient pas nécessairement instruits, n'avaient pas toujours une bonne façon de parler. Donc, ils interprétaient des noms qui leur étaient personnels, particuliers. Tout ça, dedans, il faut arriver à distiller et regarder le vrai du faux. Et vous avez aussi après le graveur qui lui faisait la plaque pour la gravure en imprimerie, qui lui rajoutait sa petite personnalité en disant une petite fenêtre là, ça serait bien. Ce gars-là, je vais le mettre dans l'autre sens parce que c'est plus joli. Et en fin de compte, après on se dit mais qu'est-ce qu'il fout là dans ce sens-là et, mais pourquoi il tient sa carte comme ça? Donc c'est là, c'est parce que la première fois que j'ai lu l'encyclopédie, moi j'ai trouvé ça génial, j'ai rien vu quoi. C'est lors d'une rencontre à la FAV où une personne a fait une conférence sur l'encyclopédie. Et là, je l'ai relu plus attentivement et je me suis dit, mais oui, effectivement, il y a plein d'erreurs. Enfin, à partir de là, j'ai eu un œil un peu plus critique. Et en fin de compte, toutes ces erreurs qu'on trouve ou qu'on arrive à déceler nous aident justement, enfin, on essaye à travers ça de voir qu'est-ce qu'on peut mettre à la place. C'est un travail de recherche, d'expérimentation. Enfin, une vie n'y suffira pas.
Caroline, vous êtes confrontée au même problème en recherche archéologique avec les écrits qu'on peut retrouver d'ici ou d'ailleurs ?
Alors, nous, pour l'Antiquité, on est rapidement relativement limité parce que des textes, il n'y en a pas, par exemple, pour l'époque gauloise. Donc, à Javol, on est presque sauvé puisque ça commence surtout à l'époque romaine, même si on a une trace d'existence gauloise. Mais c'est essentiellement l'archéologie parce que même si les gabales sont citées chez César, il en parle deux, trois fois et puis après, il n'explique pas dans le détail comment était organisé le territoire ni la capitale. Donc, c'est l'archéologie qui vient au secours de cette absence de texte.
Au niveau des verriers, le rendu est différent si le travail est effectué de manière manufacturée ou s'il est travaillé de manière artisanale avec les outils d'autrefois ? Au niveau de la qualité du rendu
alors,
ou des...
au niveau de la qualité du verre, non, parce que la plupart des objets que vous verrez dans les musées, le verre est altéré ou il est recouvert d'une gangue qui s'est fait à cause que ce verre était enfoui, hein, bien sûr. Mais les verres, à l'époque, quand ils ont été produits, étaient aussi brillants et rutilants que ceux d'aujourd'hui. Hein. Il m'est arrivé de voir des pièces qui ont pu être conservées dans des sarcophages, vraiment. Et on voit la pièce qui, par exemple, il y a 50% de la pièce qui est altérée parce qu'il y avait une infiltration de nature de terrain. Et la moitié de la pièce est pratiquement comme neuve. C'est assez curieux. Donc, c'est pour ça que les pièces, souvent, que l'on reproduit, les gens sont étonnés de voir qu'elles sont nickel, quoi, pour dire. Et en fin de compte, au début, quand elles étaient faites, elles étaient comme ça.
Et alors, vous parliez tout à l'heure du feu, mais comment on pouvait arriver à cette époque-là ? À combien le verre est en fusion, puisqu'il faut atteindre des températures très très élevées ?
Pour fondre le verre, d'abord déjà à l'époque romaine, on ne fabriquait pas le verre ici in situ. Ce verre venait du Moyen-Orient, Égypte, Syrie, Mésopotamie, enfin tout le bassin méditerranéen du sud, là, sud-ouest. Et donc, il arrivait par bateau en bloc de verre. D'accord ? Et ici, la plupart des ateliers, jusqu'à peu près au 10e, 11e siècle, les ateliers étaient ce qu'on appelait des ateliers secondaires. Donc, ces ateliers qui étaient au Moyen-Orient fabriquaient la matière, envoyaient la matière ici, et avec aussi des produits manufacturés hein, qu'ils avaient fait là-bas, et ils étaient refondus dans des ateliers, mais vraiment souvent aux abords des villes, des petits ateliers. Et donc le verre n'était pas fabriqué. Et alors pour fabriquer le verre, il fallait chauffer à peu près aux alentours de 1200 degrés. Hein, parce qu'ils fondaient ça dans un four, ils chauffaient pendant 20-30 jours graduellement. Et ils fondaient à peu près des quantités de verre qui représentaient à peu près entre 15 ou 20 tonnes de verre. Alors ils cassaient le four et récupéraient ces blocs. Et après, pour refondre le verre pour le travailler, il faut le refondre à peu près aux alentours de 1100-1150 degrés, quoi.
Ce qui reste quand même pas facile à atteindre avec un feu de bois.
C'est pas un problème. Non, non, non. On peut faire
des
plus.
Grosses bûches.
Non, justement, c'est faux. justement. Parce que si vous ne fendez pas le bois, il est long à brûler. D'abord, l'aubier, l'écorce et l'aubier se brûlent. Et après, le cœur tombe en charbon. Le charbon ne brûle pas, ne chauffe pas. Ce qui chauffe le plus, c'est la flamme. Donc l'intérêt, on le voit dans les écrits, ça, comme c'est précisé, il parle par exemple, dans l'encyclopédie Diderot, le bois doit être débité en billettes. Ce qui veut dire une bille, c'est un tronc, hein, et en billette, ce qui veut dire qu'il est fendu très finement. Et suivant l'usage, il est plus ou moins fin. Et c'est vrai, alors s'ils mettent un gros morceau de bois, de toute façon, il est fendu. Voilà, alors après, c'est. Parce que la gestion du feu se fait en fonction des moments de travail. Si vous fondez le verre, et si vous le travaillez, il peut y avoir des écarts de température. Alors, on gère le feu différemment en mettant du bois plus ou moins gros et à des fréquences plus ou moins rapprochées. Donc, c'est tout un art, hein, parce que dans la verrerie, le teaseur, ou chauffeur, on appelait ça comme ça, qui s'occupait du four, avait une place très importante parce que c'est lui qui devait gérer ça vraiment à quelques degrés près.
On parle de la mondialisation comme un terme actuel, mais ça a toujours existé avec les métiers du verre, au final.
Oui, oui, mais vous savez, à l'époque antique, le commerce était surtout dans l'Europe. On trouve des objets qui ont été fabriqués au Moyen-Orient, qui se retrouvent en Angleterre, ou même encore plus loin, et vice-versa. Donc, par exemple, on a besoin, pour le bronze, l'étain, souvent, il arrivait d'Angleterre. Donc, les échanges se faisaient dans tous les sens, et ils n'étaient pas plus bêtes que nous. Moi, je dis que les Romains, ils ont inventé les mêmes choses que nous. Nous, ce qu'on a fait en plus, c'est l'électricité, c'est tout. Sans l'électricité, on revient comme des Romains.
Alors, ce week-end, justement, on va s'imprégner dans la vie romaine de Javol, d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce qui est au programme, Caroline, tout au long de ce week-end ?
Donc l'idée, c'est effectivement de remonter le temps, en espérant qu'on arrive aussi à remonter le climat, ça serait pas mal, qu'on arrive à l'été, que de l'automne à l'été, on y arrive. Donc l'idée, c'est de déambuler entre ces différents ateliers pour voir les différents savoir-faire et puis les différents stands qui vont
donc
illustrer.
Donc une trentaine d'artisans, hein, c'est
voilà,
ça.
Voilà, il y a une trentaine d'artisans, je vais peut-être vous les énumérer.
Oui.
Donc il y a des verriers, il y a une tisserande et un tanneur, un fabricant de lampes à huile, une fileuse de perles en verre, des potiers, des médecins et quelqu'un qui s'est spécialisé dans la pharmacopée. Donc c'est un vrai médecin, il est urgentiste. Un maître du jeu, donc c'est quelqu'un qui s'est là aussi spécialisé dans l'étude des jeux depuis la plus haute antiquité jusqu'à nos jours. Donc il a une connaissance assez encyclopédique des jeux. Et comme en plus il était médiateur dans un autre musée, il a le savoir-faire pour le communiquer et animer ses jeux.
Donc ça va jouer sur ce stand-là.
Absolument. Un tabletier, donc je vous l'ai dit, c'est un fabricant d'objets en os où il va installer des tours et on pourra fabriquer des petits objets grâce à ce tour. La tailleur de pierre. Et j'espère. Ah si, j'ai oublié aussi les meuniers, les Romains, bien sûr. Donc nos Romains qui arrivent d'Agde et qui vont installer un stand de meunerie et qui procéderont à des manœuvres sur la place. Je pense que les Gaulois vont rencontrer les Romains. En général, on recrute sur place. Et ils arrivent également avec des machines de guerre en espérant que le temps soit suffisamment clément pour qu'on puisse les installer. Donc l'idée, c'est de déambuler entre ces stands, mais il y aura aussi des petits ateliers puisque parallèlement à la possibilité de se restaurer sur place, puisqu'on aura une auberge romaine, la personne qui va venir donc, va installer des petits ateliers pour fabriquer des sauces romaines où on pourra donc se succéder comme ça tout au long de la journée du samedi et du dimanche, mais aussi donc ces petits stands pour fabriquer des amulettes, pour fabriquer donc les objets en os, Je pense que j'oublie. Ah oui, j'oublie quand même quelque chose d'important. On va pouvoir construire une maison romaine.
Ah oui.
Ah oui, oui, j'avais oublié. Excusez-moi. D'habitude, notre bronzier fait de la fabrication et des ateliers Fibule. Mais là, notre bronzier s'est transformé en entrepreneur de construction, voilà. Et il a construit, enfin, c'est pas lui qui a, enfin, il l'a conçu, mais en tout cas, ce sont les gens qui vont bien vouloir venir participer à cet atelier, à la construction d'une maison, à une échelle réduite, bien sûr, en briques plastiques géantes, du sol au plafond, puisqu'on pourra fabriquer à la fois les mosaïques qui vont venir prendre place dans cette maison, la maison elle-même, la charpente, la toiture, mais également les tuiles qui vont venir recouvrir cette maison. Et parallèlement à ça, il y a un petit stand pour expliquer la serrurerie, puisque lui, à l'origine, il est bronzier. Donc l'idée, c'est de ponctuer la journée par ces petits ateliers. Et on aura également, tout au long de la journée, des interventions, notamment de l'équipe de recherche, qui va venir présenter au musée, dont l'entrée sera libre ce week-end, des petits spots, en fait, hein, des petites interventions pour expliquer ce qu'on connaît de Javol grâce à Alain Ferdière, qui va venir présenter ça dans le courant de l'après-midi, je pense. L'étude des poteries, puisque l'exposition de cette année est sur l'alimentation et la nourriture, grâce notamment à l'étude des poteries donc, et des céramiques. Et notre céramologue, notre spécialiste des poteries, va venir faire une intervention directement au musée à partir des formes qui ont été trouvées pour expliquer comment nous, à partir de ces miettes archéologiques, ces petites bribes qu'on trouve, on arrive à reconstituer la façon dont on mangeait, on cuisinait, on transportait. Et qu'est-ce qu'on transportait jusqu'à Javol il y a 2000 ans ? Et parmi les dernières miettes aussi, on aura une intervention sur la faune. Donc ces petits os qu'on va retrouver dans les déchets, dans les pièces abandonnées et brûlées. Et comment on arrive à savoir ce qu'on mangeait ici ? Est-ce qu'on mangeait du chien ? Est-ce qu'on mangeait du cheval ? Alors je vous réponds non tout de suite. Est-ce qu'on mangeait, comme partout ailleurs, au temps des Romains, voilà, du loup ? On a trouvé. Hein. Est-ce qu'on mangeait plutôt de l'oie ou du coq ? Alors les Romains mangeaient plutôt de l'oie. Et nous, on s'est rendu compte qu'à Javol, on mangeait plutôt du coq. Et en fait, on mangeait essentiellement les animaux de la basse-cour et on chasse très peu. Donc voilà le genre de choses qu'on peut savoir grâce aux bribes. Et donc, dans cette veine d'explication des objets du musée, il y aura effectivement les conférences de fin de journée à partir de 18h30. Alors, ça ne commencera pas à 18h30, je vous le dis tout de suite, parce que comme ça finit à 18h, le temps que tout le monde arrive à remonter, qu'on s'installe, tout ça, ça sera plutôt 18h45 avec le quart d'heure lausérien, Gabal, pardon. Et donc, ces deux conférences, ça sera donc pour le samedi soir sur cette cuisine de 45 mètres carrés qu'on a trouvée et donc qui est à l'origine de l'exposition de cette année, donc par les personnes dont je viens de vous parler. Et le dimanche soir, une expérimentation archéologique en direct de Saint-Romain-en-Galles, donc dans la vallée du Rhône en face de Vienne, où j'ai fait venir un médiateur du musée qui va venir expliquer comment on peut étudier la consommation du vin et la poix qui est liée à cette consommation dans l'Antiquité, grâce aux vestiges archéologiques, parce qu'à Saint-Romain-en-Galles, ils ont construit, monté de toutes pièces, une vigne expérimentale, et ils ont toute la chaîne opératoire jusqu'à la production, et grâce à ça, grâce aux textes antiques dont on parlait et aux vestiges archéologiques qu'on retrouve, on peut savoir quel cépage, quel type de raisin, quel type d'élevage, puisqu'on parle de pousse pour le raisin, et quelle production on arrivait à obtenir dans la vallée du Rhône, au moins pour Saint-Romain-en-Galles. Donc il viendra expliquer tout ça.
Et vous goûtez à la fin, non ?
Et il y aura une petite dégustation.
ça semblait un peu évident.
Et les ateliers sont ouverts du plus petit au plus grand.
Voilà, c'est ouvert à tous les âges, il n'y a pas de restrictions.
Et c'est, alors, est-ce que c'est payant ? Est-ce que c'est gratuit ? Comment
l'ensemble de la manifestation et l'entrée au musée sont libres. De 10h à 18h, et bon, les conférences aussi, bien sûr, et le dimanche également de 10h à 18h.
Et est-ce qu'il y a des propositions en soirée aussi ?
Donc il y aura les conférences.
Les conférences.
À partir de 18h30, 18h45.
D'accord.
Et vous pourrez aussi manger romain, bien évidemment.
Oui. Tout se fait devant le musée, entre le musée et le site archéologique ?
Alors ça va se passer sur la place du village, donc il y aura juste à traverser de façon très prudente. La rue qui sépare le musée de la place du village, et voilà, donc on se garera à l'extérieur du village pour assurer un maximum de sécurité à tous, et après on déambulera, donc ça sera sur la place du village, le musée en transition, et puis derrière le musée, sur la partie arrière du musée où sera installée la construction de la maison et l'atelier de tailleur de pierre.
D'accord. Pour revenir sur le site en lui-même, vous avez dit en introduction, donc on a fait des fouilles archéologiques jusqu'à 2010. Après, on a mis cette manifestation en place. Les fouilles sont finies ce...
Alors, on n'aura jamais fini les fouilles à Javol, parce que le site fait 40 hectares et qu'on n'en a pas fouillé un dixième. Mais les fouilles, dans le cadre de la recherche, sont programmées. Donc, c'est-à-dire qu'on a un délai imparti et un budget imparti sur un programme scientifique. Donc, on obtient l'autorisation de fouiller, parce qu'on ne peut pas fouiller comme ça, uniquement de la part de l'État, sur un projet scientifique et un budget qui tiennent la route. Donc, les programmes ont été menés de 1996 jusqu'à 2010. On a fini en 2010 par la fouille et l'exploration du forum, la grande place publique. Alors, je dis grande, mais c'est le plus petit de Gaule romaine. Hein, il fait 2000 m². Le plus grand se trouve à Bavé, dans le Nord. Mais après 2010, on a suffisamment de données pour continuer à faire de la recherche, c'est-à-dire exploiter la matière première des fouilles archéologiques, les plans, les photos, les vestiges, les objets, etc. Donc, par exemple, la cuisine qui est à l'origine de l'expo de cette année fait l'objet d'une publication en septembre 2013. Et c'est justement pour ça qu'on a décidé d'adapter cette chose-là dans la salle d'exposition, parce que la salle d'exposition, enfin le musée, est un outil. C'est un outil archéologique pour présenter ce genre de choses.
Enfin, peut-être, si mes informations sont justes, il y a aussi un projet de valorisation à venir sur le site, donc qui devrait permettre de mieux se rendre compte dans la vallée après l'église, là, un petit peu de mieux voir le site, comment il s'organise et mieux comprendre. Parce que c'est vrai que quand on vient, si on ne vient pas au musée, on a un peu de mal à comprendre ce qui s'est passé ici, quoi.
Oui, parce qu'en fait, l'archéologie, c'est une image un peu fantasmagorique dans l'esprit de tout le monde. L'archéologie, c'est aussi bien la fouille sur le terrain dont on parlait et qui s'est arrêtée, que ces recherches et ces publications dont on a parlé, que ces festivals d'archéologie expérimentale qu'on met en place. Mais c'est aussi donc la mise en valeur des sites qui peut se faire soit par la reconstruction ou la consolidation des vestiges bâtis. Mais on ne reconstruira jamais ce qui n'est plus visible, parce que si aujourd'hui à Javol... c'est un bourg de 300 habitants. On a du mal à imaginer qu'il y ait pu avoir une ville de quelques milliers d'habitants, en toute proportion gardée. Donc l'idée, c'est de donner un cadre et des repères à ce site. Et on a la chance que Javol serve d'expérimentation pour une mise en valeur paysagère qui va être faite sur les parcelles publiques qui protègent le site au titre des monuments historiques. Donc il y a une parcelle qui appartient à la région Languedoc-Roussillon, qui a été transférée depuis la propriété de l'État, la mitoyenne qui appartient au département de la Lozère, et une autre mitoyenne qui appartient à la commune de Javol, sur laquelle se trouvent l'église et la mairie. Et donc, le tour de force a réussi de réunir tous ces propriétaires pour en faire une réserve archéologique, mais surtout pour mettre en valeur ces 4 hectares de parcelles. Et les travaux devraient commencer donc, juste avant l'automne, pour être visibles l'année prochaine, au printemps, quand l'herbe va pousser après la neige. Mais surtout l'été prochain, quand il fera beau... puisque cette année, je pense qu'il faut faire une croix dessus. Mais surtout quand toutes les graines et toutes les végétations vont être mises en place et alternées avec du minéral, de façon à matérialiser cette trame urbaine et qu'on voit enfin cette ville à la campagne. C'est pour ça qu'on est parti sur cette idée de paysage, pour respecter le côté paysager, justement, et de campagne dans cette ville, puisque même il y a 2000 ans, quand on montre l'aquarelle donc qui restitue la ville, on voit quelque chose d'urbain avec des bâtiments, des rues, mais ça reste quand même quelque chose de profondément à la campagne, puisqu'à cette époque-là, l'essentiel de la population vit à la campagne et la ville n'est qu'une matérialisation du pouvoir par son urbanisme, par le quadrillage urbain, par les bâtiments publics. Donc dans cette trame qui va être matérialisée, au fur et à mesure des saisons, de la végétation, des coupes, etc., on devrait voir émerger donc les quelques vestiges visibles encore, mais surtout l'organisation spatiale, ce qui fait que suivant où on se placera dans Javol, on aura une vue globale sur l'ensemble du site, depuis le sud ou depuis le nord, de ce que pouvait être une ville à l'époque romaine. Et ça, c'est assez rare en France.
Oui, parce que la difficulté aussi, c'est que comme on est dans le vallon du Triboulin, si je ne me trompe pas, il y a de l'eau de toute façon dès qu'on creuse. Donc on ne peut pas laisser les vestiges ouverts en permanence pour pouvoir les visiter. Enfin...
Alors il y a plusieurs paramètres environnementaux qui font qu'on ne puisse pas laisser les vestiges au jour. Le premier, c'est le temps, tout simplement, le climat, mais le temps aussi, puisque je vous disais, on ne pourra jamais reconstruire les vestiges. Ensuite, comme on est dans une cuvette, effectivement, les vestiges sont profondément enfouis. Donc, chaque fois qu'on a fait un trou pour mettre au jour les vestiges, ça s'est rempli comme une piscine. Au pays des sources, c'est un peu normal. Mais surtout, le climat à 1000 mètres d'altitude, puisque ça oscille entre 980 et 1000 mètres, le vallon du Triboulin, fait qu'on ne peut pas laisser au jour des vestiges qui n'ont plus de murs, par définition. Et donc l'humidité et les variations de température, il peut très bien faire 30% d'humidité le matin et 100% l'après-midi, et avoir des oscillations de 20 à 25 degrés de température sur une même journée, parfois plus. Et les vestiges ne supportent pas ces écarts. Donc on est obligé, pour la protection, puisque fouiller, c'est aussi assurer la conservation et la transmission aux générations futures, de reboucher ce qu'on a trouvé pour garder le souvenir par l'archéologie et l'étude de ce qui a été trouvé et le matérialiser par cet aménagement paysager.
Bien, ben voilà, de belles perspectives
à suivre
pour Javol. On aura l'occasion sans doute d'y revenir. Bon, on va vous inviter donc à venir passer à Javol pendant ce week-end, profiter justement des verriers, des tailleurs de pierre, des différents métiers que Caroline nous a évoqués, entendre aussi ses conférences, c'est-à-dire un peu de savoir plus théorique, entre guillemets, enfin par des spécialistes, et puis à côté la démonstration de ce que pouvait être aussi la réalité de ces objets qu'on a retrouvés et comment ils ont pu être construits, et voilà. Donc merci en tous les cas de votre accueil, bon festival de dégabalades tout au long de ce week-end à Javol, et on espère que le temps sera avec vous, voilà.
Non, a priori au moins dimanche, demain on va faire des incantations pour que le soleil revienne. Merci beaucoup.
Merci
et à bientôt donc dans une prochaine émission estivale sur 48FM et Radio Margeride. Et la prochaine, ça sera lundi, concernant le Festival des cultures du monde à la Fâche Saint-Julien. Bonne journée à tous.